Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de Grand Bien Vous Fasse. Grand Bien Vous Fasse, c'est la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Et ce matin, on s'intéresse au parcours d'une jeune fille dont le mantra était « J'ai mal au ventre, longtemps épuisé, longtemps mal dans sa tête et dans son corps, au point de passer à côté de sa vie ». Après un long parcours du combattant, le verdict tombe, pas du tout malade imaginaire, mais intolérante alimentaire, avec une nécessité qui fait désormais loi dans son existence. Éliminer de son placard et de son frigo tout ce qui lui fait mal pour revivre. Cette jeune fille nous raconte ce matin ses tribulations qui lui ont permis de mettre des mots sur ses maux de ventre. Ce matin, zoom sur certaines intolérances alimentaires dont souffrent de plus en plus de Français. Nous attendons vos témoignages au 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Ok, j'ai atterri, je suis là, on s'est dit bonjour. Est-ce qu'on peut aller se goinfrer chez Carl Junior ?
Ce serait avec plaisir, mais le souci, tu vois, j'essaie de faire gaffe à ce que je mange parce que...
Quoi ?
En fait, en ce moment, je fais une cure de détox.
Quoi ? Tu fais une cure de quoi ?
Je fais une cure de détox.
Tu plaisantes ?
Je te jure, ça fait du bien. Moi, je te dis, si t'arrêtais de manger du gluten, tu te sentirais vachement mieux. Si t'as la tête dans le cul, c'est à cause du gluten.
Attends, mais c'est n'importe quoi, putain, mais qui t'a dit de plus manger de gluten ?
C'est la vérité.
Le gluten, tu sais même pas ce que c'est ?
Si, bien sûr que je sais ce que c'est.
Non, t'en as pas la moindre idée, avoue-le.
Je sais parfaitement ce que c'est. Le gluten, c'est un terme vague. C'est un truc qui sert à décrire ce qui est pas bon pour toi. Tu sais, les calories, ça c'est un gluten. Le gras, ça c'est un gluten.
Ah, bonjour, quelqu'un t'a dit que tu devrais pas manger de gluten et toi ?
Oh, d'accord, j'arrête le gluten. Le gluten, c'est super merdique. Moi, j'en mange plus, c'est clair.
Un extrait de C'est la fin, un film de Seth Rogen et Evan Goldberg. Bonjour Margot Montpeza, bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes née en 1989 et longtemps vous avez eu très mal au ventre, fatiguée, épuisée, lessivée par un mal que vous avez mis très longtemps à identifier. Et vous venez de publier un ouvrage aux Arènes, journal d'une intolérante alimentaire. Alors longtemps, se nourrir a été pour vous un chemin de croix, un acte banal qui a pourri votre vie.
Oui, tout à fait. En fait, c'était compliqué pour moi de ne pas me rendre malade avec ce que je mangeais. Dès que j'ingérais un aliment, j'avais mal au ventre, des douleurs abdominales qui me faisaient plier en deux, des diarrhées, voilà. Tout ce qu'on peut connaître quand on a une gastro. En fait, j'avais l'impression d'avoir une gastro
en permanence.
Et c'était très compliqué parce que mes parents n'ont pas pu mettre le doigt sur ce qui se passait. Comme j'avais pas de maladie grave, comme la maladie cœliaque, on m'a fait faire tout un tas de tests dans des hôpitaux. On voyait qu'il y avait une souffrance des intestins, mais on ne savait pas l'expliquer. C'est un médecin belge qui m'a dit ça quand j'étais petite. Il m'a dit « on voit que tu souffres, mais on ne sait pas pourquoi ». Et ça a été compliqué pendant une vingtaine d'années. Oui.
Et un jour d'octobre 2013, vous recevez à la maison un courrier libérateur.
Oui, c'était un courrier libérateur parce que je me suis entourée de spécialistes quand même. Je suis allée voir pas mal de gens dans des hôpitaux. Aussi une micronutritionniste qui m'a fait passer des tests d'intolérance qui ne sont pas reconnus médicalement par tout le corps médical, qu'on nous fait faire quand même. Alors c'est une grande question que je me pose, c'est pourquoi on nous fait faire ces tests s'ils ne sont pas fiables. Et en fait, j'avais déjà commencé à éliminer les produits laitiers, le gluten toute seule parce que je voyais à quel point ça m'était bénéfique. Et de voir... ces résultats sur papier, tout simplement, ça a été le début d'une démarche plus radicale, en fait, vraiment d'exclusion. Et ça m'a fait énormément de bien et ça va tellement mieux aujourd'hui.
Alors nous verrons tout à l'heure comment vous vivez votre hypersensibilité au gluten, votre intolérance au lactose et aux œufs de poule, au miel, bref, les crêpes au froment, très peu pour vous,
oui,
hein, avec du miel dessus.
Voilà, non, c'est compliqué. Mais encore une fois, comme ces tests ne sont pas reconnus, je les ai pris de façon sérieuse, mais en m'observant d'abord, en faisant d'abord la démarche de m'observer, vraiment en faisant cette démarche-là d'abord.
Et contrairement à l'extrait de C'est la fin, vous savez vraiment pourquoi le gluten n'est pas bon pour vous ?
Oui, parce que je le digère absolument pas et ça inflame mes intestins et ça provoque des douleurs qui sont extra-digestives comme des douleurs articulaires, des migraines, des aftes. J'ai les cheveux et les ongles qui s'abîment. Enfin, c'est vraiment
c'est plus du tout le cas, hein. Je vous ai
symptômes.
Devant moi.
Oui, voilà. Mais là, ça va mieux aller. je n'ai pas fait une prise de gluten avant de venir, heureusement pour vous. Et voilà, ça va vraiment beaucoup mieux aujourd'hui.
Bonjour professeur Christian Cellier.
Christophe, bonjour.
Christophe, pardonnez-moi, pourquoi je vous appelle Christian ? Je ne sais pas.
C'est pareil.
Vous êtes gastro-entérologue, chef du service des pathos gastro-entérologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et vous êtes un spécialiste reconnu de la maladie cœliaque. Pour le dire vite, c'est l'intolérance au gluten présent dans 70% des produits transformés, c'est ça ?
Alors, la maladie cœliaque, c'est ce qu'on appelle aussi l'intolérance au gluten. C'est une maladie qui est lié effectivement à un constituant du gluten. Le gluten, c'est une petite protéine qui fait que le pain devient élastique. Et cette maladie est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps développe des anticorps contre lui-même et détruit progressivement l'intérieur, la peau des intestins et empêche l'absorption. Ça, c'est la maladie qui peut se compliquer de déminéralisation des os, puisqu'on absorbe mal le calcium, d'anémie, parce qu'on absorbe mal le fer. Et c'est une maladie qui peut être grave, parce que c'est compliqué de cancer. Alors ça, il faut absolument la diagnostiquer, parce que dans ce cas-là, le régime sans gluten est impératif.
Qu'est-ce que le gluten ? On le retrouve où, le gluten ?
Le gluten, on le retrouve dans des protéines, dans le pain, par exemple. C'est après, quand on prépare la pâte pour faire le pain, c'est le côté élastique. C'est une petite protéine élastique qui, en soi, n'a pas de valeur nutritive, mais dans un de ses composants peut effectivement être toxique chez certains, chez environ 1% de la population, et donner cette maladie cœliaque.
Assistez-vous à une explosion des intolérances alimentaires dans votre service à l'hôpital européen Georges Pompidou ?
Alors effectivement, il y a énormément de gens qui consultent pour des intolérances alimentaires. Alors le but, c'est de d'abord éliminer une maladie cœliaque quand on parle du gluten, parce que c'est potentiellement grave et il faut suivre le régime sans gluten. Et puis à côté, il peut y avoir d'autres gens qui souffrent, peut-être comme madame ou mademoiselle, d'une hypersensibilité au gluten, c'est-à-dire il n'y a pas de maladie cœliaque, il n'y a pas d'atrophie intestinale, il n'y a pas de lésion dans l'intestin. Par contre, ces patients ne supportent pas le gluten et ils vont mieux quand ils suppriment le gluten. Et ça, c'est un autre mécanisme qui, pour l'instant, est mal connu et méconnu.
Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Directrice de Santé Magazine. Alors tout à l'heure, vous nous direz ce qu'il faut penser des tests d'intolérance alimentaire.
Et oui, ils sont, comme on l'a vu, très controversés.
À tout à l'heure, Aline Perraudin. Nous reviendrons dans quelques instants sur les tribulations d'une intolérante alimentaire. Mais il est déjà l'heure de la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire. Sans ça, tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire ?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Chaque lundi, vous nous proposez une petite philo de la vie quotidienne. On vous retrouve désormais un peu plus tôt dans l'émission. Cette semaine, réflexion profonde sur le froid qui nous tombe dessus depuis une bonne semaine.
Un froid glacial s'installe sur la France.
Ça gèle ce matin, c'est horrible.
Nom d'un glaçon, se dit le canard, il fait un vrai froid de moi.
Nom d'un glaçon, se dit le canard, il fait un vrai froid de moi.
Toujours un froid de canard et les pingouins trouvent ça bizarre.
Ce froid sibérien devrait se poursuivre jusqu'à la fin de semaine au moins, avec des gelées généralisées sur tout le pays, renforcées par un vent persistant.
Comme vous le voyez, tout est gelé.
Ça caille.
Voilà, un petit peu d'Anne Sylvestre déjà dans les oreilles et ça réchauffe. Alors vous allez voir, Ali, qu'entre le froid et l'intolérance alimentaire, eh ben, il n'y a qu'un pas. Puisque quand nous avons froid, d'une certaine manière, hein, nous exprimons aussi une intolérance à l'égard du temps qu'il fait. Et dans les deux cas, du coup, la question c'est de savoir si cette intolérance, elle vient de nous ou si elle est causée par quelque chose hors de nous. Alors, en commençant par le froid, vous avez remarqué, Ali, que depuis quelques jours, les gens de la météo, les gens qui disent la météo à la radio par exemple, font la différence dans leurs annonces entre le froid qu'il va faire, la température que l'on pourra mesurer et le froid ressenti, comme s'il y avait donc deux froids, un froid extérieur et objectif, hors de nous, et puis un froid ressenti, donc subjectif et en nous.
Et c'est peut-être pour ça que nous n'avons pas tous froid de la même façon.
Voilà, exactement, c'est pour ça que vous savez, l'été, hein, sur la terrasse, le soir, quand on a fini de dîner, certains ont déjà froid et cherchent un petit gilet, quand d'autres ont encore chaud, et c'est pour ça donc que nous ne sommes pas tous également sensibles au froid comme au chaud, donc d'ailleurs. Alors un soir d'hiver de 1641, près d'un poêle à la lumière d'une bougie finissante, Descartes écrit ses fameuses méditations métaphysiques. Et dans ces méditations métaphysiques, Descartes distingue entre des qualités propres aux choses et d'autres propres à notre sensibilité. Plus tard, on les appellera des qualités premières et des qualités secondes. Les qualités premières, ce sont des qualités objectives qui sont dans les choses, comme la forme, la solidité, la continuité. Les qualités secondes ne sont pas dans les choses, mais sont le résultat d'une interaction entre les qualités premières des choses et ma sensibilité. Alors tout ça pour dire qu'il n'y a donc pas de froid dans la glace, mais la glace est froide pour moi. De même, il n'y a pas de rouge dans le sang, mais le sang est rouge pour moi.
Si je vous ai bien compris, le froid, c'est donc toujours un ressenti.
Oui, un ressenti, alors objectivement mesuré par le thermomètre ou subjectivement senti par mes doigts quand j'attrape une boule de neige. Alors ça fait bizarre, mais on peut dire en fait qu'il ne fait jamais froid, parce que le froid est toujours
relatif. Et quand on a froid, eh bien c'est à cette pensée-là que l'on peut déjà tenter un petit peu de se réchauffer. C'est bien d'avoir froid ou d'avoir chaud, c'est la preuve de mon interaction avec le monde, c'est la preuve que je le ressens, qu'il m'affecte, mon corps, mon esprit, tout ensemble. On peut jouer avec lui d'ailleurs, bien se couvrir et prendre plaisir à le sentir un peu, ou bien se mettre complètement nu et le ressentir brutalement, vous savez, comme ces gens du Nord qui se roulent dans la neige et se baignent dans des lacs glacés. Et puis le froid peut aussi être le témoin d'une interaction moins amusante, plus difficile avec le monde. On a froid aussi justement parce qu'on n'a plus rien pour se réchauffer, on est mal logé, mal chauffé, carrément sans abri. Dans ce cas, on ne joue plus avec le froid, mais on en souffre. Alors la plus grande surprise n'est pas tellement qu'il fasse froid en hiver, bon, mais que le froid, comme le chaud, comme les couleurs, ne soit qu'une perception, qu'une impression. Ça n'enlève rien à leur réalité. Au contraire, cette perception est l'indice de notre réalité à nous, d'être au monde, d'être sensible au monde, d'être affecté par le monde. Et c'est aussi cette expérience-là que nous faisons quand nous mangeons. Dis-moi si tu as froid et j'en saurai plus sur qui tu es. Dis-moi aussi sur ce que tu peux manger ou ce que tu ne peux pas manger et j'en saurai aussi plus sur qui tu es. Notre identité n'est pas une affaire strictement théorique. C'est aussi une question de ressenti et d'interaction avec le monde.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez ressenti le froid en préparant le marathon ce week-end?
Ouais, il a piqué un peu samedi matin, oui.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, vous restez bien évidemment avec nous. Alors si vous souffrez d'intolérance alimentaire, n'hésitez pas à nous contacter au standard d'Inter 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Alexia Rivière et Claire Destacan ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Théo Denmat et c'est Jérôme Boulet qui réalise. My enemy.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h20 et ce matin on s'intéresse aux intolérances alimentaires avec Margot Montpeza qui raconte dans son livre ses tribulations d'intolérante au gluten, au lactose, aux œufs de poule ou encore au miel, et avec le professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou.
C'est très triste, hein. J'aimerais pas trop être intolérante au lactose.
Je sais juste que c'est des gens qui peuvent pas boire de lait.
Ouais, ça fait une sorte d'allergie. Hein.
Le fait de ne pas supporter le lait.
Qu'on ne supporte pas en fait tout ce qui est à base de lait.
C'est-à-dire qu'on est allergique, n'est-ce pas?
Et je pense qu'il doit y avoir du lait sans lactose, je sais pas si c'est possible.
Utiliser d'autres produits, lait de soja ou comme ça?
Bah, ne plus boire de lait, malheureusement.
Je pense qu'il y a des produits sans lactose.
Pas boire de lait.
un extrait d'un spot de Swiss Milk, l'équivalent de la maison du lait en France. Alors Margot Montpeza, depuis que vous êtes toute petite, votre réalité c'est d'être intolérante. Alors ça commence quand vous êtes bébé avec l'intolérance au lactose, le sucre du lait.
Exactement.
Et vous ne digérez même pas le lait de votre mère.
Bah oui, c'était compliqué. On m'a donné de l'eau de fleur d'oranger. Alors voilà. Mais du coup, ça a mis un petit bout de temps avant de se rétablir. Je continuais à être malade et on savait pas pourquoi. Et j'arrêtais pas de coller ma mère, ma maman, en disant vraiment ça va pas du tout. Et on savait pas pourquoi j'étais malade et j'avais des douleurs abdominales très handicapantes. Et petit à petit, on a fait le lien entre ce que je mangeais et l'état dans lequel j'étais. On a fait toute une série de tests aussi. Et finalement, de moi-même, en fait, j'ai arrêté. J'ai fait les tests de la maladie cœliaque, évidemment, pour ne pas savoir si j'avais ou pas cette maladie, c'était pas le cas. Et du coup, voilà, ça va beaucoup mieux.
Mais revenons sur l'intolérance au lactose, ça a été détecté assez vite?
Oui, bah, en fait, quand on est enfant, c'est ce que ma mère m'a dit, quand on va chez le pédiatre et qu'on dit qu'elle a mal au ventre quand elle boit du lait, elle a des diarrhées, tout ce qui va avec l'intolérance au lactose, on le détecte assez facilement chez les enfants.
Professeur Cellier?
Oui, c'est assez fréquent, non, mais c'est pas rare d'avoir une intolérance au lactose quand on est petit, mais généralement c'est par les enzymes qui digèrent le lactose sont insuffisants quand on est jeune et grandissent progressivement et ça peut parfois s'arranger avec l'âge.
Et c'est une intolérance qui toucherait 6 à 10% de la population française, c'est ça?
Alors, c'est des chiffres qui sont peut-être un peu excessifs à l'âge, dans l'enfance. Après, secondairement, ça s'arrange. C'est des intolérances partielles. Généralement, les gens le diagnostiquent quand effectivement ils supportent pas quand ils prennent du lait, ils développent des ballonnements, des diarrhées, des maux de ventre. 6 à 10%, ça me paraît très excessif.
Et certaines populations sont davantage touchées dans le monde, l'Asie, l'Afrique?
Il y a certaines populations, mais là, c'est des populations qu'on a déficit, on va dire, génétique en enzymes pour digérer le lait. Et ceux-là, effectivement, sont plus touchés, mais c'est quand même relativement rare. Mais c'est pas rare à l'échelon mondial, effectivement, d'avoir une intolérance au lactose.
Bonjour Catherine, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Tours.
Oui, j'appelle de Tours, oui.
Alors, vous êtes intolérante à une soixantaine de produits, dont le lait?
Oui. Oui, dont le lait.
Et les œufs.
Voilà, disons que pendant il y a à peu près 4 ans, je souffrais énormément. La nuit, je pouvais être réveillée, je souffrais. On m'a dit que c'était du météorisme. Mon estomac était extrêmement gonflé et cela me réveillait vers 2h30 du matin à peu près. Et puis le lendemain matin, je me mettais debout, il y avait du météorisme, et le lendemain matin, de la diarrhée. Et le reste de la journée se passait très très bien, puis j'avais supprimé un certain nombre de choses, je ne savais pas. Et j'ai entendu parler de ce test pro-immune, qui se faisait en Allemagne. Donc j'ai fait faire une analyse de sang, qui a été envoyée en Allemagne, et on m'a donné des résultats, on m'a envoyé la liste des aliments qu'il fallait que j'évite. Et il y a un code de couleur, et j'ai vu que tout ce qui concernait le lait, la présure, le lait de vache, était en rouge très 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 foncé. Bon, après il y avait des choses qui étaient en jaune clair, voilà. Et j'avais une soixantaine de produits qu'il fallait que j'évite. J'ai été extrêmement stricte, extrêmement sérieuse. J'ai arrêté vraiment de manger ces aliments tout en prenant des probiotiques pour réparer ma paroi intestinale. Et puis, ça a été une transformation mais totale et absolue de ma vie. Depuis maintenant 5 ans, j'ai repris les aliments qui m'étaient fortement déconseillés. Par contre, le lait de vache, tout ce qui est lait de vache, fromage de vache, crème, etc., ça a été supprimé complètement. Bon, ben, c'est pas grave, je fais de la cuisine avec de la crème de soja, avec de la crème d'amande, de la crème de coco, c'est super, je prends du fromage de chèvre.
Vous avez trouvé des alternatives. Professeur Cellier.
Alors, ces tests dont parle madame, effectivement, lui ont apparemment été utiles, mais il faut particulièrement s'en méfier parce qu'ils n'ont aucune validation scientifique. Et il faut savoir qu'il y a une maladie qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, où on souffre du ventre de façon sans savoir pourquoi, qui est peut-être liée à une hypersensibilité intestinale. Comme on peut être hypersensible au froid, on peut être également hypersensible à certains aliments. Et ces tests qui surfent un peu sur la mode des intolérances alimentaires ne sont ni remboursés, et en plus peuvent conduire à des comportements déviants, c'est-à-dire à des orthorexies alimentaires. C'est-à-dire que les gens se privent de tout et ça peut être très dangereux. Donc moi je pense qu'il ne faut pas faire ces tests et qu'ils sont non seulement pas remboursés, mais en plus ils peuvent être dangereux pour une grande partie de la population.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, que valent ces tests d'intolérance ?
Mais oui, effectivement, parce qu'ils peuvent aboutir à une fausse interprétation. On peut par exemple éliminer, comme l'a fait madame, beaucoup d'aliments et ça peut conduire à des carences. C'est pas forcément aussi le bon diagnostic. Et surtout, ben, pour l'instant, ça n'a aucune validité scientifique puisque ça détecte la présence d'immunoglobulines de type G dans le sang. Et ces immunoglobulines de type G à l'encontre de certains aliments, ben, en fait, tout le monde peut aussi en produire. C'est pour ça qu'il n'y a pas une fiabilité. Alors, je comprends les gens comme madame qui, en fait, on voit bien que les intolérances sont très difficiles à diagnostiquer et sont tentées de faire ces tests sanguins qui promettent comme ça une réponse facile.
Merci Catherine de nous avoir appelé de Tours. Réaction, Margot Montpezat.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce que je dis dans mon livre, que ces tests sont évidemment pas du tout basés sur des faits scientifiques. Mais je pense que ça prouve bien à quel point les gens ont des difficultés à aller mieux et qu'ils se sentent très seuls, parce que s'ils se tournent vers des tests comme ça au lieu d'aller voir leur médecin, c'est peut-être qu'il y a un petit déficit dans l'écoute, etc.
Aline Perraudin.
Mais des médecins aussi les prescrivent. Moi-même, je l'ai testé comme ça parce qu'un médecin me l'a prescrit. J'étais intolérante, soi-disant, à 6 aliments, ce qui est totalement faux, puisque je n'ai aucun symptôme.
Professeur Cellier.
Oui, et puis il y a certaines maladies, on se tourne effectivement, les gens vont chercher des solutions qu'on ne leur apporte pas en médecine classique, je le comprends, mais il y a certaines maladies, comme le syndrome de l'intestin irritable, pour lequel on n'a pas de traitement très codifié. Alors après, il peut y avoir un effet qu'on dit placebo, c'est-à-dire le fait de supprimer un état d'aliment peut améliorer les choses, pourquoi pas hein. Moi je ne suis pas contre les éliminations, parce que je suis contre le fait que des gens adoptent des alimentations qui peuvent être dangereuses. On peut induire des anorexies et des troubles du comportement alimentaire très importants avec ce type de test et ce type d'aliments.
Margot Montpezat, revenons à vos tribulations d'intolérante alimentaire. Alors on élimine le lait de votre alimentation quand vous êtes toute petite, mais vous continuez à être malade. Et certains médecins affirment même que vous somatisez.
Oui, vous êtes une petite nature, c'est dans la tête. C'est normal de souffrir dans la vie, vous n'êtes pas la seule, etc. Voilà, j'ai eu pas mal de remarques assez désobligeantes. Oui, mais en fait, de somatiser, c'est en fait de que ça soit dans la tête, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, somatiser,
professeur Cellier?
Somatiser, c'est-à-dire que quand on ne trouve pas de cause, on dit c'est dans la tête. Mais alors, ce qui peut s'expliquer, c'est que ce qu'on appelle le deuxième cerveau, il est dans les intestins.
Bien sûr, évidemment.
C'est-à-dire qu'on a autant de neurones, enfin de cellules nerveuses dans le cerveau que dans l'intestin. Et on estime qu'environ 10% de la population souffre d'une hypersensibilité, c'est-à-dire ressentent des troubles digestifs pour des raisons qu'on ne connaît pas toujours. Ça peut être soit après une infection, soit après un traumatisme, une agression sexuelle par exemple, qui peut très bien induire des dysfonctionnements au niveau des neurones du tube digestif et entraîner des troubles digestifs qui ne sont pas forcément liés à une au gluten ou au lactose ou à d'autres choses.
Margot Montpezat, ce qui rassemble la plupart des intolérants alimentaires, c'est de savoir que pas mal de choses clochent sans savoir pourquoi. Et ce manque d'explication peut rendre fou.
Oui, c'est vrai, ça peut rendre fou parce que les symptômes, ça peut être une migraine, des boutons. C'est une grande marque d'inflammation, les boutons, des problèmes de ORL aussi, beaucoup liés à l'intolérance au lactose. Oui, c'est...
Et ces maux de ventre prenaient toute la place dans votre tête.
Oui, parce que comme le dit le professeur Cellier, c'est lié en fait, c'est notre cerveau du bas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous somatiser. Oui, un peu quand même, parce que personne ne me croit. Et qu'en plus, je suis très stressée parce que je suis tout le temps malade et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un cercle qui n'est pas du tout vertueux. Au contraire, c'est un cercle vicieux. Et c'est très difficile en fait de s'en sortir.
Vous avez le don de détecter à 10 000 km les enfants intolérants.
Oui. Et encore la dernière fois, je rigole, mais c'est tellement pas drôle parce qu'en fait, je le vois assez rapidement. J'ai le souvenir d'une petite qui avait des difficultés à manger, qui avait faim tout de suite et qui ensuite avait mal au ventre, qui était un peu irascible, de mauvaise humeur, avec une peau très sèche, etc. Et je me suis dit, tiens, elle doit avoir un petit problème avec la nourriture, d'intolérance peut-être au lactose, etc. Et souvent, en fait, ça se confirme. Après, les parents viennent me voir, me disent « Ah, mais tu sais, en fait, ma fille, elle est un peu comme toi. » Et je l'avais vue parce qu'elle m'a fait penser à moi quand j'étais petite, en fait.
Et quand vous regardez les photos de vous, quand vous aviez 5-6 ans, vous aviez l'air malade.
Ouais, j'avais l'air malade et j'ai le regard de quelqu'un qui va pas bien. C'est ce que mon père m'a confirmé. La dernière fois, il m'a dit « C'est vrai que t'avais un regard un peu... » On se disait, ça va pas forcément super bien, et j'avais les yeux gonflés, et on sentait que j'étais un peu dans une bulle, en fait, et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps. J'étais pas moi-même, j'étais totalement à côté de la plaque, j'étais fatiguée constamment, et dans un espèce de brouillard j'avais des problèmes d'attention, de concentration, et c'est tellement handicapant, en fait, et plus c'est handicapant, plus on se dit, oula, il y a vraiment un problème. Et c'est compliqué de déceler les causes.
Professeur Célion, on a tendance à sous-estimer l'altération de la qualité de vie des intolérants alimentaires.
Sans doute, mais je crois pas. On sait depuis de nombreuses années que les gens alors, qui souffrent d'intolérance alimentaire ou de syndrome de l'intestin irritable ont une qualité de vie qui est très altérée. Après, c'est sûr qu'on a peu de solutions à leur apporter, c'est compliqué, quoi. Et qu'eux, ils ressentent généralement un peu comme une sorte de dédain de la part du corps médical en disant « Vous n'avez pas de vraie maladie, donc rentrez chez vous. » Et c'est pour ça que les gens se tournent vers des alternatives, alors qu'il y a probablement des solutions à leur apporter, qui sont des solutions multiples. Mais c'est pas nouveau, hein, si vous voulez. Les gens qui se plaignent qu'on a la boule au ventre ou être bilieux, les choses comme ça, ça fait des millénaires qu'on parle des problèmes de ventre. C'est que maintenant, peut-être qu'ils sont devenus un peu au premier plan depuis quelques années. Et puis qu'il y a une mode quand même avec les aliments sans gluten. C'est devenu par ailleurs une mode qui n'est pas toujours raisonnable.
Oui, je me demandais quelque chose, professeur. Quand vous parlez du syndrome de l'intestin irritable, il y a quand même un régime qui marche. Dans 70% des cas, c'est le régime d'exclusion en FODMAP, c'est les sucres qui sont indigestes.
Oui, alors il y a certains régimes qui peuvent améliorer les hypersensibles et les syndromes de l'intestin irritable. Les FODMAP, vous l'avez cité. Parfois le gluten pour les hypersensibles au gluten. Et il y a d'autres cas, mais parfois ça peut être l'hypnothérapie, ça peut être d'autres thérapies comportementales qui peuvent les améliorer.
Aline Perraudin.
Le régime, quand on supprime les sucres fermentés cibles et FODMAP, c'est très difficile à suivre et parfois certaines personnes sont tentées par des régimes d'exclusion et se gâchent aussi la vie.
Rappelez ce que sont les FODMAP.
Ce sont des sucres fermentés cibles qu'on trouve dans beaucoup, beaucoup de fruits et légumes, donc c'est très difficile à suivre ce régime.
Alors Margot Montpezin, je rappelle qu'en fait vous n'êtes pas atteinte de la maladie cœliaque, la vraie intolérance au gluten. Dans votre cas, on parle de sensibilité non cœliaque au gluten.
Oui, c'est un terme qui est connu depuis 1978, j'ai trouvé en écrivant ce livre-là, défini seulement en 2011 comme concernant les patients qui ont des troubles digestifs et extra-digestifs qui sont soulagés avec un régime sans gluten pour lesquels il n'a pas été diagnostiqué de maladie cœliaque. C'est quand même un vrai handicap, parce que vous dites la vraie intolérance, mais je peux vous assurer que si vous venez à la maison après que j'ai mangé quelque chose avec gluten, vous verrez des résultats aussi très contraignants.
Professeur Cellier, la différence entre ce dont souffre Margot Montpezin et la vraie maladie cœliaque.
La maladie cœliaque, comme je le disais au début, il faut absolument la diagnostiquer parce que ça peut avoir des complications graves et on doit suivre le régime sans gluten puisqu'on détruit la paroi interne des intestins et ça peut évoluer vers une ostéoporose, vers un cancer. C'est une maladie auto-immune. L'hypersensibilité non cœliaque au gluten, on ne sait pas actuellement à quoi c'est dû et par quel mécanisme ça agit. Le diagnostic se fait par l'exclusion du gluten qui améliore et qu'on réintroduit le gluten, on redevient malade.
Allez, si vous souffrez d'intolérance alimentaire, n'hésitez pas à nous contacter au Standard d'Inter 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
Nous sommes Marcia Baila, les cracheurs de feu de l'enfance, le trajet qui n'en finit pas, et la banquette arrière immense. Nous sommes Riverside Park, les pelouses dans les centres-villes, nous sommes les beaux jours qui débarquent, nous sommes les amours imbécile. le visage pâle dans la lumière. Nous sommes la fin d'été, la chaleur, les soirs de retour, les appartements retrouvés, la vie qui continue son cours. Sur notre enfant, les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir, nous sommes la vie à cet instant, et je te suis sur le trottoir, et je te regarde à présent.
Vincent Delerme, à présent.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h37 et ce matin on s'intéresse aux intolérances alimentaires avec Margot Montpezat qui publie Journal d'une intolérante alimentaire et avec le professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Bonjour. Alors, oubliez le pain, les croissants au petit déjeuner. Adieu. Brioche dorée, pâtes, semoule et autres appétissants feuilletés. Et oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'en Europe, environ 2 millions d'individus ne pourraient pas manger l'un de ces aliments. Il s'agit des intolérants au gluten. Ces personnes sont en effet atteintes d'une affection appelée maladie cœliaque. Elle est responsable de nombreux troubles physiques et carences que seul un régime strict sans gluten peut contenir.
Un extrait de « Ça se bouffe pas, ça se mange » de Jean-Pierre Coff en février 2008. Professeur Cellier, selon l'Association française des intolérants au gluten, une grande majorité de malades cœliaques ne connaîtraient pas leur pathologie. Est-ce vrai?
Oui, c'est très très probablement vrai, et en particulier en France, puisque la maladie cœliaque est souvent un peu sournoise. C'est-à-dire que dans certains cas, on a des diarrhées, un amaigrissement, une perte de poids. Là, on arrive vite au diagnostic, mais parfois, ça va se manifester juste par des ballonnements, juste par une anémie, un manque de fer, de la déminéralisation osseuse, et on tarde à avoir le diagnostic qui est pourtant simple à faire. Et là, c'est un test qui est validé scientifiquement.
Quel est ce test ?
Recommandé, c'est les anticorps anti-transglutaminase par une prise de sang. Et si c'est positif, on confirme le diagnostic lors d'une fibroscopie qui passe par l'estomac et qui prélève un petit morceau de l'intestin grêle pour voir s'il y a des anomalies.
Alors, il y aurait 600 000 cœliaques déclarés en France, mais on ne connaît pas bien les chiffres de l'hypersensibilité au gluten. C'est plus vague.
L'hypersensibilité, c'est beaucoup plus difficile puisqu'on n'a pas de critères diagnostiques très formels. On n'a pas de tests, on n'a pas de... Donc pour l'instant, il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de cohorte. Il y a des chiffres qui circulent qui sont extrêmement flous. Ça va jusqu'à 5% qui, pour l'instant, ne sont absolument pas validés d'un point de vue scientifique en tout cas.
Bonjour Bruno, bienvenue.
Bonjour.
Vous vous appelez de Seine-et-Marne, où exactement?
À Champs-sur-Marne.
Alors vous avez éliminé le gluten de votre alimentation?
Oui, tout à fait, oui. Oui, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, au départ, j'avais d'autres problèmes, des problèmes musculaires, des problèmes de tension, de douleur. Finalement, j'ai passé pas mal de temps dans ma vie à souffrir et à pas bien dormir, pas bien me reposer, et je trouvais pas la solution. Finalement, j'ai mon médecin traitant, j'avais changé de médecin traitant parce que j'avais déménagé, qui m'avait plutôt incité à aller dans cette voie. Au début, je l'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'était intéressant, c'est le processus. Au départ, j'ai commencé à suivre ses prescriptions, à éliminer le gluten, entre autres. Et puis, Mais j'étais quand même assez attiré par une viennoiserie, par une bonne pizza.
Et ah, je vous comprends, je vous comprends.
Voilà, au fur et à mesure que j'éliminais ça, au fur et à mesure, quand je faisais des écarts, ils étaient de plus en plus... Enfin, ma santé, d'un côté, s'améliorait, et d'un autre côté, les écarts étaient de plus en plus douloureux, de plus en plus pénibles à supporter. Finalement, j'étais en désaccoutumance, et ça a été... c'est à ce moment-là, donc, si vous voulez, j'ai pas eu vraiment de test, si ce n'est en... Il y a quand même un test qui m'avait fait une sorte de résistance musculaire en présence ou en l'absence de gluten qui faisait que je manquais de tonus en présence de gluten et qui a indiqué un peu cette orientation.
Margot,
mais c'est surtout mon vécu, moi, qui m'a fait poursuivre dans cette voie-là. Je me suis bien vraiment rendu compte que sans le gluten, effectivement, dans mon alimentation, mais pas seulement ça, hein. J'ai éliminé les laitages, puis j'ai éliminé d'autres trucs, par exemple le jus d'orange, j'en bois un verre, je suis KO, alors que dans l'esprit des gens, le lait c'est bon, c'est nourricier, c'est votre ami pour la vie, comme disait la pub, le jus d'orange, c'est des vitamines, tout ça, et j'arrivais pas à imaginer au départ que ça puisse être aussi néfaste dans mon cas. Après, moi, je fais pas de prosélytisme, je suis pas en train de dire que c'est valable pour tout le monde, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, ces aliments-là sont néfastes et qu'on peut s'en rendre compte quand on fait le test, quand on fait cette démarche. Et quand on s'écoute et qu'on regarde un petit peu quelles sont les conséquences. Voilà.
Bruno, après, votre témoignage parle à Margot Montpeza, hein.
Oui, parce que moi, le sport, c'est un des chapitres dans mon livre. Le rapport au sport, j'avais beaucoup de mal. Je me souviens, à l'école, j'étais vraiment nulle en sport. Et depuis que j'ai arrêté le gluten, j'étais essoufflée, rouge écarlate. Enfin, je raconte tout ça. Et depuis que j'ai arrêté le gluten, j'ai une forme olympique. Mais vraiment,
ça se voit.
Non, mais c'est dingue en fait.
Professeur Seignier.
Bah, si quand on mange pas de gluten, on est mieux. Bah pourquoi pas, je dirais, comme je dis à mes patients, ça mange pas de pain. ceci dit, il a été démontré très clairement, oui. Puisqu'on posait la question notamment pour les tennisman, parce que vous savez que Djokovic par exemple était testé au régime sans gluten, et même
Manuel Valls aussi.
Manuel Valls, ça lui a pas réussi. Et La Fédération française de tennis s'était interrogée sur le fait de est-ce qu'il fallait mettre les joueurs au régime sans gluten. Il y a une étude très sérieuse qui montre qu'il n'y a aucune différence qu'on suive un régime sans gluten ou pas en termes de performance sportive.
Mmh. Merci Bruno de nous avoir appelé de Seine-et-Marne. Professeur Seignier, existe-t-il un mécanisme commun à toutes les intolérances alimentaires? Est-ce que les symptômes et les conséquences sont identiques?
Pas du tout. Il y a des intolérances type malicia qui sont des maladies auto-immunes. On développe des anticorps contre soi-même. Il y a des hypersensibilités. C'est peut-être d'un problème neurologique, des nerfs de l'intestin. Et puis il y a des allergies alimentaires où là c'est un phénomène immédiat. C'est-à-dire vous mangez quelque chose et vous avez mal au ventre, vous avez des boutons, vous avez de la fièvre, vous avez du mal à respirer. Ça c'est l'allergie alimentaire.
Margot Montpeza, dans votre ouvrage, vous appelez votre système digestif Billy.
Oui.
Alors pendant longtemps, ce fut la guerre avec Billy, hein,
oui.
Jusqu'à ce que vous le réduisiez au silence.
Oui, non, mais on s'entend bien maintenant, ça y
c'est
est.
C'est vrai ?
Ouais, ça se passe bien. Mais non, ça a été compliqué. Oui, j'ai été obligée de lui trouver un petit nom parce que ça m'a aidé à prendre du recul et à me dire que c'était deux entités très différentes. Et aujourd'hui, quand Billy va pas bien, je m'occupe de lui, je sais que moi ça va aller en fait. Et voilà, et c'est aussi pour ça que je raconte tout ça un peu avec humour et en donnant des petits noms parce que ça m'a permis vraiment de dédramatiser et de trouver des solutions en fait.
Comment se passait la cohabitation entre Billy et votre entourage, vos petits amis?
Ah, les petits amis, c'est une longue histoire. Non, ça a été compliqué. Oui,
il
non.
Il faut qu'ils acceptent Billy dans leur vie.
Il faut qu'ils acceptent Billy, voilà. En fait, le sujet vient très très rapidement. Dès le premier échange, vu qu'évidemment on parle de nourriture, ça arrive tout le temps, mais avec mes amoureux, enfin mon amoureux, mais aussi avec des patrons potentiels, des collègues de bureau, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, en fait j'en parle tout le temps, parce que tout le monde me pose plein de questions et voilà, c'est de l'ordre de l'intime, mais finalement je suis obligée d'en parler à tout le monde, c'est comme si je devais les rassurer.
Il peut être pesant le regard social sur les intolérants alimentaires?
Oui, il peut être pesant parce qu'on sent un peu de jugement. Alors après, moi, dans mon cas, comme à chaque fois j'explique et je fais pas du tout de prosélytisme anti-gluten, etc. Je raconte juste mon expérience à moi. Les gens sont assez à l'écoute et surtout, ils se disent « Ah mais attends, moi aussi, en fait, j'ai mal au ventre. » Et là, il y a un vrai échange qui se passe et du coup, ça se passe bien. Voilà, j'ai jamais eu de quelqu'un qui m'a hurlé dessus ou quoi. Mais bon, enfin, ça se passe plutôt bien.
Enfin, ouais. Vous expliquez dans votre ouvrage que lorsqu'on vous demande « Mais qu'est-ce que tu peux manger ?» ça renvoie souvent aux angoisses sur la nourriture. injures de votre interlocuteur. Et vous écrivez même qu'ils ont peur qu'on leur enlève le pain de la bouche.
Oui, mais ça c'est vrai, en fait c'est un vrai tabou, notamment en France. Quand on se prive de quelque chose, c'est assez mal vu. C'est vu comme une insulte à ceux qui mangent, qui ont aucun problème de ventre, et tant mieux pour eux. Mais voilà, ils le prennent assez mal. Bon, aujourd'hui, les consciences évoluent. Même les médecins avec lesquels je me suis entretenue m'ont dit qu'ils changeaient peu à peu leur discours en ayant les retours des patients. Et ça, je trouve que c'est assez rassurant comme démarche.
Et une autre question revient. Et tu ne craques jamais, Margot ?
Alors j'ai craqué l'année dernière, j'ai mangé une galette des rois, vos fameuses galettes des rois qui me rendent dingue en ce moment, c'est très difficile. J'ai mangé une petite galette des rois, j'ai été malade comme un chien. Du coup, bon, je le paye tellement cher en fait au quotidien que je me dis que c'est pas la peine et je préfère faire attention à mon intestin tout simplement et dans une démarche, une bonne démarche.
Professeur Cellier, comment éviter les troubles du comportement alimentaire quand on élimine certains aliments ?
C'est tout le problème. Hein. Je pense qu'il faut vraiment éliminer ce qui est toxique pour la santé. Alors le gluten pour les maladies cœliaques, qui eux ne rêvent que d'une chose, c'est effectivement remanger
des croissants.
Et eux, pourtant, c'est vital pour eux. Donc c'est pour ça que parfois il y a une certaine injustice, surtout quand il y a des sortes de phénomènes de mode comme ça qui se développent en disant sans gluten pour tout le monde. Eux, ils trouvent ça un petit peu injuste. Ceci dit, ça leur permet d'avoir par ailleurs plus d'accès à des produits sans gluten. Donc c'est pas. Mais et après, faut justement à force de chercher des choses qu'on n'arrivera jamais à trouver dans l'alimentation, on supprime les uns après les autres, et là on se retrouve dans ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire des troubles du comportement alimentaire qui peuvent être dangereux, voire sévères, surtout chez des jeunes adolescents ou des gens plus fragiles.
Marion Peza, vous expliquez dans votre ouvrage que vos intolérances alimentaires ont déréglé votre comportement et que vous étiez attirée par ce qui vous faisait mal, et cela avait forcément des conséquences sur votre humeur.
Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le sucre chez les gens qui ont les intestins sensibles. Manger du gluten et du lactose, du fromage, tout ça, ça agit un peu comme une drogue sur le cerveau. Et moi, je sais que j'avais un comportement très compulsif, je me gavais, etc. Et c'est... Oui, j'avais un comportement qui n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, parce que je crois que j'étais très énervée d'être malade. Et je ne savais pas pourquoi, en fait. Et c'est lié, le deuxième cerveau, le ventre est lié, en fait.
Désolée, je vous ai appelé Marion. Oui. J'ai un problème avec les prénoms.
Non, mais je vais vous en trouver un petit nom aussi.
Bah, allez-y, hein, faites comme chez vous. Aline Perraudin.
Mais moi, je voudrais être un peu plus positif sur l'exclusion d'aliments. Il n'est pas question, quand on en exclut 60, effectivement, ça peut amener à des comportements dangereux. Mais peut-être aussi, de supprimer un seul aliment, ça peut aussi amener à repenser son alimentation. Et comme le dit Margot, à peut-être manger mieux.
Professeur Cellier, quels sont les liens entre la mauvaise humeur, les colères de Margot Montpeza et ses intolérances alimentaires ?
Alors, bon, je connais pas le cas de Margot Montpeza, donc c'est difficile.
Plus généralement, quand on est malade, d'intolérants alimentaires. Bah,
quand on est malade, on a mal au ventre, quand on est comme ça, c'est sûr que c'est des douleurs chroniques qui retentissent un peu sur le psychisme. Enfin, je l'interprète comme ça. Après, oui. Chaque cas est particulier. Faire un diagnostic sans connaître, c'est toujours difficile.
Mais Ali, quand vous avez une gastro, vous n'êtes pas forcément de bonne humeur,
non,
on est d'accord.
Vraiment, voilà.
C'est un peu ça, le truc.
Allez, si vous souffrez d'intolérance alimentaire, n'hésitez pas à nous contacter au standard d'Inter 01 45 24 7000 par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations, she's by my excitation. Good, 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 good. Boys, ça fait du bien à 10h51.
France Inter, grand bien vous fasse.
Et ce matin, on s'intéresse à quelques intolérances alimentaires avec Margot Montpezin qui publie Journal d'une intolérante alimentaire et avec le professeur Christophe Sellier, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Margot Montpezin, dans votre ouvrage, vous revenez avec humour avec les choses les plus maladroites que l'on dit bien souvent à un intolérant alimentaire.
Oui, il y en a pas mal.
Par exemple, il y en a 6 pages dans votre livre.
Voilà. Non, j'ai fait un petit florilège. Non, ça, c'est tous les jours en fait que je génère.
Qu'est-ce qui revient souvent ?
Ce qui revient souvent, c'est « Ah, toi non plus, tu manges pas de gluten et, et on mange des gâteaux, etc. » Moi, ça me fait rire maintenant. Ou alors, on peut m'appeler la gluten free, me trouver des petits noms, me dire « Ah, trop de chance, en fait, t'es au régime tout le temps. » Alors que c'est tellement faux. Parce que c'est pas du tout un régime amincissant, en fait. Au début, on perd de l'eau parce qu'on se passe de pain, de pizza, etc. Moi, j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines, mais je les ai vite repris en adoptant une alimentation variée, équilibrée, tout à fait normale, et qui, pour le coup, me donnait pas des maux de ventre.
Comment ça se passe, les courses au quotidien ? Vous écrivez que ça ressemble à Koh-Lanta, le jeu de survie diffusé sur TF1.
Oui, en fait, c'est compliqué parce que quand on commence à lire les étiquettes, on se rend compte que le gluten, il y en a partout. 70% des produits transformés, c'est énorme. Et il y en a même dans la sauce tomate. La dernière fois, j'ai vu qu'il y avait du blé dans la sauce tomate ou des œufs dans les noix de cajou pour parler des œufs, etc.
Et
en fait,
et dans certains médicaments aussi.
Et dans certains médicaments, dans la pilule contraceptive, il y a du lactose. Et en fait, en commençant à lire les étiquettes, on se rend compte de tout ce qu'on va devoir changer comme habitude et comme réflexe. Et on s'y met. Bon, c'est un peu compliqué au début, on se sent un peu seul. On est tenté de manger toujours la même chose pour être sûr. Mais en fait, les réflexes reviennent assez vite et on adopte une alimentation avec des vrais aliments pour le coup.
Et puis c'est un parcours du combattant qui coûte cher. Avec par exemple un pain sans gluten, 6 à 7 euros les 500 grammes.
Oui, ça c'est un pain bio sans gluten frais, pas ceux qui sont dans du plastique. Voilà, c'est super cher, du coup on n'en achète pas tout le temps. Des pâtes, c'est 4-5 euros le paquet de pâtes sans gluten. Moi, mon Nutella, enfin la pâte à tartiner que j'adore, c'est 12 euros. Le pot, donc c'est pas possible au quotidien.
Alors, rappelons que la sécurité sociale rembourse une partie des aliments des malades cœliaques. Professeur Sellier.
Oui, rembourse. Il y a un petit remboursement qui est de l'ordre de 45 euros par mois pour les sujets chez qui on a prouvé la maladie cœliaque, c'est-à-dire qui ont des biopsies de l'intestin et des anticorps montrant qu'il s'agit d'une maladie cœliaque, pas pour les hypersensibles. Et quand on voit la complexité et le coût de ce régime sans gluten, il faut vraiment faire le diagnostic avant de commencer un régime sans gluten, de maladie cœliaque ou non, pour avoir de très bonnes raisons de suivre ce régime.
Bonjour Marilène, bienvenue, vous appelez de Monaco.
Oui, bonjour, je vous appelle de Monaco, je suis une mamie d'une petite fille de 12 ans. Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, Marilène.
Alors, Juliette a 12 ans, elle a été diagnostiquée maladie cœliaque à 4 ans, due à une rupture de croissance et puis des maux de ventre, constipés, tout ce qu'on veut. Et on a un régime très strict, elle n'a plus du tout dans la formule sanguine de traces, mais elle est au régime strict sans gluten, et c'est une petite fille qui a tout le temps mal au ventre, tout le temps, qui est tout le temps fatiguée et qui attrape tous les virus. Donc je voulais savoir si ma fille a intérêt à voir si elle a une autre intolérance.
Merci pour votre question, professeur Sellier, c'est à vous.
Pour votre fille, effectivement, il faudrait probablement qu'elle revoie un médecin pour voir si la maladie cœliaque est bien contrôlée, s'il n'y a pas de forme un peu atypique et particulière, et sinon, voir peut-être s'il n'y a pas un autre trouble qui pourrait expliquer une autre maladie, qui pourrait expliquer ses troubles digestifs, notamment un syndrome de l'intestin irritable.
Merci beaucoup, Marilène, d'avoir appelé de Monaco. Bonjour, Elisamée, vous appelez du Gard.
Oui,
bienvenue.
Bonjour.
D'où exactement ?
Merci. Alors, c'est ma région natale, mais sinon, là, je suis actuellement à Lyon.
D'accord. Alors, vous êtes intolérante également ?
Alors, ce n'est pas pour moi. C'est mon ami qui est concerné. Mmh. Il a 26 ans. C'est depuis l'âge de 12 ans, en fait, qu'il manifeste des symptômes, ceux que vous avez cités précédemment. À cet âge-là et jusqu'à présent, il a passé, en fait, une série d'examens, que ce soit des journées à l'hôpital, il a vu des gastro-entérologues, des homéopathes, et jamais aucun médecin n'a su détecter ce qu'il avait. On lui a même dit qu'il fallait qu'il arrête de se plaindre parce que ça devenait un peu lourd. Récemment, on lui a dit, on l'a détecté comme étant hypersensible. On lui a parlé des intolérances puisque sa famille est elle aussi impactée par cette intolérance. Donc aujourd'hui, il n'a pas pu faire d'examen parce que il avait un contact, un expert en hygiénisme pour un hypersensible, sauf que c'est la consultation, c'est à 500 euros, sachant qu'il y en a deux à faire, il y a des examens à passer qui sont très 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 chers. Ma question est simple, c'est est-ce qu'il existe des interlocuteurs qui puissent trouver des réponses à ces questions et surtout qu'ils ne soient pas excessivement chers, comme c'est le cas pour cette personne qu'il avait trouvée, qui était parfaite, mais impossible, quoi. Quand on est étudiant, c'est pas possible.
Réponse du professeur Cellier.
Écoutez, c'est très difficile, hein. Il faut voir au cas par cas. Je connais pas du tout le type de consultation, mais normalement, avec des consultations classiques, on peut régler et débrouiller la majorité des problèmes digestifs, et en particulier en consultant un gastro-entérologue qui, a priori, doit bien connaître ce type de troubles digestifs ou éventuellement un nutritionniste.
Merci beaucoup, Elisamé, de nous avoir appelé de Lyon. Margot Montpeza, quand on est intolérant comme vous, il faut réapprendre à cuisiner, hein?
Oui.
Et alors par exemple, par quoi vous remplacez le beurre? Le beurre qui m'est cher, comme pour beaucoup.
C'est
comment
très
vous
simple.
Faites
par de la margarine, mais le plus souvent de l'huile d'olive. C'est meilleur, ouais. L'huile d'olive. Voilà. Non, je descends une bouteille d'huile d'olive par semaine.
Et le lait et la crème dans les recettes.
Le lait et la crème, des laits végétaux qui sont plus des jus.
Lait d'amande, lait de riz.
Ce qui sont très sucrés, donc j'en bois pas non plus tout le temps. Voilà, je remplace la crème par de la crème de riz ou de la crème de soja. C'est assez simple une fois qu'on a trouvé des substituts, en fait.
Mais le goût du beurre, quand même.
Je l'ai oublié.
Vous l'avez oublié?
Ouais. Moi, je le sens et j'arrive à me souvenir, mais j'ai totalement oublié.
Un mot pour conclure, pour tous les intolérants, y compris, en quelques secondes, Margot.
Courage et faites-vous confiance. Parce que c'est vous qui savez ce qui vous rend malade aussi.
Aline Perraudin.
Je crois qu'il faut s'écouter et vraiment voir les aliments qui nous conviennent ou pas.
Professeur Cellier.
Et avoir un diagnostic correct au départ avant de commencer un régime sans gluten.
Merci beaucoup Margot Montpeza, je conseille
Merci
vraiment
Annie.
Votre journal d'une intolérante alimentaire publié aux Arènes. Merci professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Sacha Tropp. Demain, on se demande ce qu'est une société liquide, une société où ni le travail, ni l'amour, ni l'amitié ne sont plus des choses solides. En hommage à l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, Zygmunt Bauman, décédé le 9 janvier dernier. Vous verrez que ce sociologue a été un visionnaire sur le devenir de nos sociétés. C'est l'un des tout premiers à avoir analysé la grande précarité des liens intimes ou sociaux. À suivre Nagui et sa bande originale.